Histoire de l'Église du Père Joseph Sabalo, une série de 22 émissions du Père Joseph Sabalo enregistrée dans les années 90 pour Radio Lapourdi. Par cette rediffusion, Radio Lapourdi rend hommage au Père Joseph Sabalo, originaire d'Asparin, qui est décédé le 5 novembre 2019. Histoire de l'Église du Père Joseph Sabalo, aujourd'hui 17e épisode, un voltairien à Bayonne, ciao.
Le 6 octobre 1844, Augustin Chaos lançait à Bayonne son journal, Ariel. Il en serait le principal et souvent l'unique rédacteur, avec des sous-titres divers et des fréquences de parution variables, pendant plus de 7 ans, jusqu'au 19 février 1852, il ferait, dans notre ville, beaucoup de tapage. Les débuts furent fracassants. Arrivé depuis peu à Bayonne, logé à Mousserolles dans une demeure assez retirée pour qu'il la compare à une chartreuse, Chaos entreprit d'abord de collaborer à Trilby, un périodique bayonnais qui s'occupait de beaux-arts, littérature, théâtre, voyages, mode et tenait la gazette de la ville des environs. Les jeunes bourgeois qui le rédigeaient tenaient leur cénacle au café Farnier, que Chaos, par une de ses fantaisies caustiques dont il est coutumier, orthographiera Farnier, N-I-A-I-S. Le torchon brûla très vite entre le sultan et les bayonnais. On s'insulta. De ces âpres querelles, Ariel, comme Trilby, nous donne des échos. Chaos s'en prit à Canning, un Anglais établi à Bayonne, à Guillery. Sur ce dernier, qui écrit également dans Le Phare, Chaos avance des gentillesses dans le genre de celle-ci, qu'on peut lire dans le premier numéro d'Ariel. Un style lourd, pédant, filandreux et quintessentiel de bêtises forme tout le bagage de Guillery. Il s'y trouve aussi quelques solécismes. Qui dit cela? Moi d'abord, et toutes les connaissances que Guillery a laissées dans Paris. Évidemment, les répliques ne manquaient pas, ni dans Trilby, ni dans la revue bayonnaise. Ainsi, le 17 octobre, « Mon bon Ariel, d'où provient cet inquiet malaise, ces sombres accès de frénésie pendant lesquels ton imagination en délire semble prononcer le nom de Trilby comme dans un cauchemar. Et l'on me disait pourtant que tu avais trouvé le repos au fond de ton ermitage. L'on me disait que là, revenu des erreurs de ta jeunesse, rebuté par les épreuves de ce monde, tu t'étais renfermé dans le sanctuaire de ta pensée mûrie par l'expérience, et que tu consacrais tous tes loisirs à tes saintes et patriotiques élucubrations, parfois entrecoupées de pieuses méditations sur la vanité des choses de ce monde et des diverses goualeuses en général et en particulier. » La dispute devint si âpre qu'on s'invita à des duels. Les témoins de Chaos étaient le capitaine de Montségu et le vicomte Henri de Belzunce, châtelain et maire de Méharin. Mais ces duels n'eurent pas lieu. Qui s'interposa, qui se défila? Trilby laisse entendre que Chaos n'était pas au rendez-vous fixé avec Canning, et nous n'avons rien relevé sur ce qui regarde le duel décidé entre l'ardent sultan et Guillery. Les premiers temps de Chaos à Bayonne et les débuts d'Ariel nous donnent à entendre quel singulier personnage et quel redoutable polémiste était Augustin Chaos. Sa présence n'avait rien d'une bénédiction. Mais il est temps de voir qui il était et quel était son passé quand il arrivait à Bayonne pour y jouer le rôle nullement négligeable que nous allons voir. Joseph-Auguste Chao, qui préféra se faire appeler Augustin, était un sultan, un enfant de Tardets. Son père, originaire de Mauléon, s'était établi comme huissier dans l'aimable petite capitale de la Haute-Soule. Marié à 34 ans avec la très gracieuse Rose Lagarde, qui n'en avait que 17, il avait 6 enfants, 4 garçons et 2 filles, dont Auguste était l'aîné. Envoyé au séminaire collège d'Oloron pour y faire ses études secondaires, l'aîné des Chao y acquit bientôt la réputation d'un génie. Ses connaissances et ses talents littéraires éblouirent ses maîtres aussi bien que ses condisciples. Par contre, il était désespérément nul en mathématiques. Il manifestait à leur égard une répugnance telle qu'il ne pouvait pas s'y appliquer le moins du monde. Est-ce du fait de cette infirmité radicale? Est-ce à cause de certains orages sentimentaux? Toujours est-il que Joseph Auguste abandonnait Oloron sans avoir affronté les épreuves du baccalauréat. Il s'exerçait quelque temps aux travaux d'employé de banque, puis, tel le fils prodigue, il demandait et obtenait sa part d'héritage, 12 000 francs, et s'envolait pour Paris. C'était en 1830, il n'avait pas 20 ans. À Paris, il ne connaissait guère que les abbadis d'Araste, qui habitaient la Soule l'été. L'un d'entre eux, Antoine, de 2 ans plus âgé que Chao, devait faire une fabuleuse carrière d'explorateur, d'anthropologue, de physicien et d'astronome, et fonder à Hendaye le château et l'observatoire qui portent son nom. Il n'est pas probable que notre Chao les a beaucoup fréquentés. Il signera pourtant avec Antoine, en 1836, les études grammaticales sur la langue euskarienne. Il sortait de la pension de famille où il avait loué une modeste chambre pour hanter les bibliothèques, se gaver d'une multitude de livres et suivre des cours d'orientologie. Il affirmait avoir appris le sanskrit. Le soir, il lui arrivait de se rendre à l'Arsenal, chez Charles Naudier, qui en était le bibliothécaire. Cet essayiste, historien et nouvelliste, aujourd'hui rejeté dans l'ombre, brillait alors au zénith des lettres. Il aimait recevoir, conseiller, encourager les aspirants aux gloires littéraires, ceux surtout qui venaient de la province dont il était lui-même originaire, la Franche-Comté. Quoiqu'il ne fût pas byzantin, Chao fut assidu aux réunions de l'Arsenal. Toute sa vie, il s'est réclamé des leçons de Naudier et lui avoué une admiration sans mélange. Cet écrivain, disait-il, est le plus instruit, le plus élégant, le plus riche de notre siècle. Il a guidé mes premiers pas dans la carrière littéraire. Cependant, ni la correspondance connue de Naudier, ni ses biographes ne font aucune mention de Chao. Ce furent des années obscures. Sans doute, Joseph Auguste arriva dans la capitale, dévoré d'ambition, à nous deux, Paris. Ce cri de Rastignac, c'était aussi le sien. Toute sa vie, il essaiera de se faire un nom à Paris. Jamais il n'y réussira. Et pourtant, toujours, il aimera Paris. Il en gardera le souvenir horrifié d'orgies auxquelles il a assisté et dont il a souffert. Mais surtout, il rendra hommage à sa beauté incomparable et à ses lumières. Avec raison, sa gratitude est fondée, car en 3 années à peine, s'est opérée en lui une mue extraordinaire. Paris l'ignore, c'est vrai, le dédaigne, mais quand on compare ses cahiers d'avant son exil avec cet écrit, avec ses écrits de 1834, on se rend compte qu'il a, en si peu de temps, acquis un remarquable bonheur d'expression et toute une doctrine, une philosophie, si l'on veut, éminemment discutable, certes, mais d'une vigueur, d'un aplomb, d'une ambition probablement supérieure à tout ce que notre pays basque nord a connu jusqu'alors et depuis. En 1834, donc, année faste, paraissent à Paris ses premiers écrits. L'un en basque, de quelques pages à peine, « Asti Beguia, l'œil du devin, Agosti Shaho Burutarak, Sibedu Heri Maitiari, Parishetik Igoririk, Bestehanitsen Insindari, Arribidian Goisisara. » Un autre cours également en français, parole d'un biscaïen aux libéraux de la reine Christine, et un troisième dont le titre résonne comme une réponse adressée à un ouvrage célèbre de Lamennais qui venait de paraître, parole d'un voyant. La pensée que ces ouvrages traduisent porte un accent si original et si neuf qu'elle paraît déconcertante et étrange. « Shao, Kao », disait-on. Lui-même, conscient de rompre d'une façon radicale avec les credos de son enfance et de son pays, s'est appliqué à présenter sa doctrine sous la forme de visions, de vaticinations, d'ésotérisme. « Asti Beguia, l'œil du devin, parole d'un voyant. » Fils des voyants, qu'as-tu vu? Malheur à l'imprudent qui dévoile au regard profane des enfants de la nuit les divins mystères de l'avenir. Encore un peu de temps et les voyants écriront leur apocalypse. Encore un peu de temps et leur parole retentira comme un tonnerre dans le ciel. Mais alors le drapeau solaire flottera dans les airs. Et le glaive étant tiré, le vieux de la montagne aura dit « Marchons !» En fait, ses vues sont simples, sinon simplistes. En outre, sa doctrine ne change pas. De 1834 à sa mort en 1858, c'est le même credo qu'il révèle avec la même solennité, aussi bien aux libéraux de la reine Christine qu'au seigneur Labourdin du voyage, aux fidèles d'Ariel, ou au lecteur de la philosophie des religions comparées. Car, en dépit de l'expérience, Shao demeure convaincu que ni dans ses principes, ni dans ses constatations, ni dans ses prévisions, il ne se trompe jamais. Quelle est donc cette vérité suprême que le génie de Shao l'a chargé d'annoncer au monde et d'abord à ses compatriotes? Sibelu Heri Maitiari Arribidean Gois Isara, comme un autre Moïse, descendant du Sinaï. Eh bien, c'est que les Basques sont les seuls descendants du peuple béni qui fit l'âge d'or. Sans doute ont-ils perdu de leur vertu primitive, sans doute se sont-ils rendus à une religion symbolique. Du moins, ils ont gardé leur indépendance, le culte de la liberté et surtout la langue merveilleuse, miraculeuse, divine, qu'ont forgée sous les deux signes de la nature et de la raison les premières générations ibères. Car les Euskaldun sont des descendants des Ibères. Ils appartenaient à ces peuples du Sud, de l'Inde, d'Afrique, d'Italie, d'Espagne, qui connurent la sagesse, la science, la vertu et la paix de l'âge d'or. Cela dura ce que dure un âge, 3000 ans. Au terme de ces 3000 ans, eut lieu une épouvantable guerre planétaire. Les peuples du Nord, Scythes et Celtes, 9 millions de guerriers, armés de barbarie, de rois et de prêtres, abandonnèrent leur glace pour déferler vers le midi, hissement la misère et la mort. Ce furent 3000 années d'erreurs et de malheurs. les 1800 dernières années de l'histoire de l'homme, car il n'y a pas tout à fait 8000 ans que notre humanité existe, les derniers siècles de l'histoire marquent une lente remontée en lent progrès de la civilisation qui débouchera, au terme de 3000 ans, sur un nouvel âge d'or. Voilà, pensera-t-on, un roman absolument effarant. Comment Shao pouvait-il y croire, et avec une telle obstination? Il faut se rappeler que la paléontologie, au temps où vivait Shao, était encore à naître, la marque Darwin était encore ignorée, l'abbé Breuil, Teilhard et tous les autres grands paléontologues sont encore loin, encore qu'il faille observer que Shao est en retard même sur son temps. Les philosophes des Lumières ont pressenti le transformisme. Par ailleurs, l'hypothèse ibérienne bénéficie du crédit du grand Humboldt. À grand renfort d'imagination, Cour de Gébelin et ses émules composent des histoires primitives dont la moindre n'est pas celle de Fabre d'Olivet où Shao a trouvé le récit de la guerre mondiale que se livrèrent le Nord et le Sud. La preuve de ce qu'il avance comme vérité suprême, Shao la trouve dans l'Eshkwara, cette langue sans âge, parfaitement expressive, parfaitement naturelle, parfaitement rationnelle. Ah, certes, nous ne pouvons la tenir des barbares, Aitor nous l'a léguée. Devait suivre le voyage en Navarre pendant l'insurrection des Basques, qui eut l'honneur d'une traduction allemande, et les études grammaticales de la langue esquarienne en 1836, la propagande russe à Paris en 1837, de l'agonie du Parti révolutionnaire en France en 1838, l'espagnolette de Saint-Leu et l'Elo ou la Navarre il y a 500 ans en 1841. Aucun de ces ouvrages n'avait eu un véritable succès. Il n'empêche que lorsqu'il lança Ariel à Bayonne en octobre 1844, Shao n'était pas un inconnu. Il avait déjà, à 33 ans, une œuvre littéraire passablement importante à son actif. Rapidement, il va manifester une hostilité hargneuse, non seulement contre le clergé, mais contre la religion chrétienne. Il est anticlérical et antichrétien. Nous sommes les fils de Voltaire, écrasons l'infâme. Shao n'interroge pas la science et il n'attend rien des religions. Où va-t-il chercher la vérité? Dans une tradition ésotérique qu'il voit ponctuée par Ram, Krishna, Bouddha, Zoroastre, Mahomet, Christ, qu'il invoque avec solennité, dont il se promet et nous promet des révélations éblouissantes, mais dont il ne tire en fait qu'une théorie des temps et des âges que la science a radicalement démentie, en somme des mythes portés par l'imagination, sinon constante, en tout cas fréquente des peuples, celui de l'éternel retour et celui de l'âge d'or. À ces mythes, et particulièrement celui de l'âge d'or, il associe, dans une synthèse qui lui est personnelle, le mythe basque, celui de sa primitivité absolue et de la supériorité radicale de l'Eshkwara sur toutes les autres langues. Ces vues n'entraînent pas nécessairement qu'on déclare la guerre au christianisme. Effectivement, la gnose n'est pas forcément anticléricale et encore moins antireligieuse. Shao justifie son attitude antireligieuse par ce point de son système suivant lequel l'âge de perfection qui ouvre le temps est gouverné par la liberté et la vérité. Il ne connaît ni roi ni prêtre. Par contre, la barbarie qui met fin à l'âge d'or, ère de violence et de tyrannie, d'obscurité et de superstition, est imposée par eux. Elle est leur œuvre, celle des rois et des prêtres. Les fléaux majeurs sont la monarchie et la religion. Comme il ne s'intéresse nullement à la science, Shao n'entend rien non plus à la philosophie classique. Platon, Hegel et les autres lui paraissent parfaitement inutiles, ce sont autant de sophistes. Sur les grands problèmes humains, Dieu, l'âme et son immortalité, la nature de l'homme, sa responsabilité, sa liberté, il a des options catégoriques, empruntées à la tradition théosophique, qu'il ne s'emploie guère à fonder et qui ne sont pas toujours facilement conciliables. Que Dieu existe, cela ne fait pour Shao aucun doute. Il ne croit pas en Dieu, il se rend à son évidence absolue. Dieu est même pour lui le seul être qui existe en rigueur, le seul qui demeure, la seule substance. C'est ce qu'il appelle et qu'on appelle le théisme ou déisme. Pour lui, philosophie pure des voyants. En dehors de Dieu, il n'y a que des phénomènes, des apparences fugitives et constamment changeantes. Les êtres autres que Dieu, si on peut parler d'êtres, sont l'objet de la création, car Dieu crée nécessairement et de toute éternité. En cela consiste son incarnation, car il est vie, incarnation et lumière, vérité qui, dans la religion symbolique et aberrante des chrétiens, devient la Sainte Trinité. Il est évident, écrit notre homme dans la philosophie des religions comparées, que l'existence nécessaire des mondes est en fait éternelle, ayant pour cause une puissance éternelle, agissant elle-même sous la direction d'une sagesse éternelle infinie. Dans ces conditions, le monde est parfait. Cela encore est évident. Nous vivons dans le meilleur des mondes possibles. Malebranche avait raison. Donc, tout mal local, nécessairement temporaire, est une dissonance imperceptible dans l'harmonie éternelle du grand tout. C'est ce qu'il écrit dans la philosophie des révélations. Concernant la nature de l'homme, les vues de Shao sont extrêmement confuses, sinon parfaitement contradictoires. L'homme est un pur phénomène, dit-il dans la philosophie des religions comparées. Il est une pure apparence, ce qui lui enlève donc toute durée et toute identité. Mais paradoxalement, le Tardésien en parle aussi bien comme d'un esprit et d'une âme, d'un agent spirituel. À la mort, écrit-il, le principe intelligent va se perdre comme une goutte légère dans l'océan de l'intelligence universelle. Si l'âme divine inonde et remplit tout, comment l'âme humaine pourrait-elle s'en détacher ? Confusion supplémentaire, les âmes sont des corps. Des corps subtils, mais des corps. Tous les esprits créés appartiennent à la catégorie des corps subtils impondérables, écrit-il. Car, sans qu'on voit pourquoi, pour Shao, il ne peut y avoir d'esprit que Dieu. Si les âmes créées étaient purement immatérielles, dit-il, en quoi leur nature différerait-elle de la nature incréée de Dieu. D'après lui, donc, l'esprit est nécessairement, évidemment, infini, parfait et éternel. Voilà pourquoi, aux surprises, l'esprit de l'homme ne peut être qu'un corps. Autre surprise, ces êtres qui ne sont qu'apparence, illusion, et donc qu'il serait difficile de comprendre autrement que comme des fantasmes divins, portent en eux un principe d'autonomie, de liberté. Dieu, écrit l'homme de Tardets, produit les êtres et les fait mourir par l'efficace des lois qu'il attache à leur nature. mais il ne les anime pas directement. Le soutenir, ce serait tomber dans le panthéisme et nier l'indépendance relative de leurs évolutions. Les êtres peuvent sortir de leurs lois. En cela réside le mal qui se produit en eux, mais une loi finale constitutive les ramène à l'ordre ou les brise en hâtant leur destruction. Et c'est ainsi que l'ordre et l'harmonie, à côté du mal accidentel, règnent éternellement dans l'univers. Du philosophe Shao, il est difficile d'avoir grande estime. Ses vues, pour confuses qu'elles soient, n'ont même pas grande originalité. Elles doivent beaucoup, pour l'essentiel, à deux courants qui ont fortement marqué le XVIIIe siècle, le théisme, dont Voltaire est le plus illustre représentant, et le phénoménisme de George Berkeley et David Hume, tendances qui sont passées dans l'ésotérisme. On ne peut pas reprocher à notre homme d'entrer dans ces conceptions, mais bien de ne pas les fonder, ni les concilier les unes avec les autres, et de les déformer. Cela dans l'abondance confuse avec laquelle il les traite. Tous ceux qui sont familiarisés avec Shao savent que sa lecture, parfois vive et brillante, est trop souvent indigeste et pénible. La question qui, plus que n'importe quelle autre, son grand mythe mis à part, arrête, passionne, obsède le Tardésien, c'est celle de l'au-delà. Plus précisément, la thèse chrétienne et musulmane des récompenses et des châtiments éternels, celle des châtiments surtout. Il faudrait un gros livre pour réunir ses textes sur le sujet. La critique qu'il en fait est sa principale arme de guerre contre le christianisme, les autres étant les cruautés de l'Inquisition et de la conquête américaine, et les pénitences excessives, absurdes à ses yeux, des ascètes qu'il rapproche des fakirs hindous. Concernant l'enfer, son argumentation n'est pas très originale, elle frappe par l'insistance et la passion qu'il y met. Premièrement, il est faux de concevoir une survie individuelle, à la mort, l'âme humaine rentre dans le grand tout. Deuxièmement, la responsabilité de l'homme ne peut être que relative, limitée. Comment mériterait-il un châtiment éternel? Troisièmement, comment les chrétiens peuvent-ils concilier l'idée de l'enfer avec celle de la bonté et de la miséricorde de Dieu? Voltaire et combien d'autres ont exploité ce thème qui n'est pas sans donner du fil à retordre à nos théologiens ou plus simplement à nos catéchistes. Rousseau, lui, soucieux de justice, l'attend en perfection de l'au-delà, et Shao, qui admire pourtant Rousseau, lui reproche cette thèse. Antireligieux par principe, du fait de cette thèse concernant l'état de nature, l'âge d'or et l'origine de la barbarie, le roi et le prêtre, Shao pratique dans Ariel un anticléricalisme d'une agressivité extrême. Moins extraordinaire à son époque, celle de Michelet, de Béranger, de Paul-Louis Courier, du Hugo de la vieillesse, mais qui étonnait même alors par son ardeur. Il est difficile, me semble-t-il, de trouver parmi ceux qui ont tenu la plume avec quelque bonheur anticlérical plus forcené que lui. Dès 1844 et jusqu'à son accident de 1849, il se déchaîne contre l'Église avec une verve inépuisable et une incroyable férocité. Il est encouragé par le succès qu'il y trouve auprès des anticléricaux, fort nombreux alors et souvent passionnés, par ses frères maçons, depuis qu'il appartient à la loge de la Parfaite Union, et par ses amis politiques du Parti radical, à partir du moment où s'ouvre à ses yeux la perspective d'une carrière politique. La religion véritable et bienfaisante, selon Shao, a disparu avec l'âge primitif. c'était celle de la nature et de la pure raison. Elle le serait pourtant, elle survit, chez les voyants, les grands initiés, tels que Ram, Krishna, Zoroastre, Moïse, Christ, Mahomet et Shao lui-même. Pour les religions qui s'étalent au grand jour, manifestes, exotériques, le Tardésien les condamne avec rigueur. Le judaïsme, écrit-il, est une religion fabuleuse et puérile, faite pour les enfants. Le christianisme, une religion de visionnaires et d'esprits détraqués. Le mahométisme, une religion de pourceaux. Contre le prêtre catholique, sa virulence se donne libre cours avec une extraordinaire fréquence. Donnons quelques échantillons de ce genre particulièrement fourni. L'esprit sacerdotal est un génie satanique et ténébreux, dont le souffle infecte tout ce qu'il y a de pur. Ou encore, le prêtre est la représentation sociale, le type vivant, de la servitude infâme et de l'horrible nuit de l'âge barbare. Encore, église infâme, hypocrite, insensée, tes bûchers viennent à peine de s'éteindre et l'on ne verra plus monter vers le ciel la fumée des cadavres humains, exécrable en sang offert par d'ignobles prêtres sur l'autel d'un culte insensé. Le barbare adore les fétiches, il est essentiellement croyant. Systématiser l'instruction symbolique pour la rendre populaire, il vous faut un sacerdoce avec son chef, pape ou lama. Vous organisez une religion, un culte, vous constituez pour des siècles la dure servitude et la triste nuit dont la représentation sociale, le type vivant, est le prêtre. La police que l'Église exerce par la confession est le dernier degré de la toute-puissance inquisitoriale de ses ministres. Et fut-elle représentée par un chérubin de 25 ans, à l'incarnation robuste, aux passions ardentes, à l'imagination de feu, la pudeur de la jeune fille ne doit point avoir pour lui de secret. Et la jeune fiancée de la veille, la rougeur au front, doit venir dévoiler et étaler à ses yeux hardis les inviolables mystères du lit nuptial. Les casuistes, les théologiens, se donnent comme les seuls interprètes de la loi divine. Jésuites, frères brûleurs, c'est ainsi qu'il appelle les dominicains à cause du rôle qu'ils ont joué dans l'Inquisition, carmes, capucins, cordeliers, voilà les docteurs de l'Église. Force nous est de proclamer que les élucubrations extravagantes de cette singulière école sont l'opprobre de la morale et la honte de l'esprit humain. Le prêtre du village, à qui l'on enseigne leur belle théologie dans les séminaires, commente à son tour et applique, législateur souverain, les décisions des interprètes de la foi, et trônant à l'ombre dans la crasse du confessionnal, voit à ses pieds le pauvre peuple se prosterner comme aux pieds de Dieu. N'a-t-il point pouvoir de lier, de délier? Il tient une éternité dans chaque main, l'enfer et le paradis, rien que cela. Et il vous dira sans faute comment l'on mérite l'un et on perd l'autre. Heureusement que les théologiens déraisonnent en mauvais latin et que le commun des profanes ne les lit pas et ne peut les comprendre. Dans l'Ariel courrier de Vasconi, Augustin Shao mène campagne contre le clergé en dénonçant les scandales, petits et grands, dont il se rend coupable. Les petits, ce sont ceux de par ici, presque toujours des rives de l'Abdour, Urte, Saint-Martin de Seignans, Perorade, Saubus. Le Pays basque et plus encore la Soule est à peu près épargné. Et que dira-t-il d'Asparin, l'intransigeante, sinon que s'il a le malheur de passer par ces bois, un coup de fusil fera son affaire. Sur le compte donc des curés du Bas-Adour, Ariel est abondamment pourvu de nouvelles. Apparemment, les anticléricaux sont légion dans ces coins-là, donc la cueillette est abondante, mais de médiocre qualité. Ce ne sont que menus scandales. Par exemple, en 1846, année où Chao donne l'impression d'être au meilleur de sa forme, il s'élève contre le curé de Cam, qui refuse à un vieux marcheur l'honneur d'être parrain. Contre celui d'Ondre, qui s'obstine à ne pas chanter « Domine salvum fac regem », sans doute à cause de ses convictions légitimistes. Contre celui du Rugne, qui a demandé de l'argent pour enterrer une mendiante originaire de Béla. Contre celui de Tarnos, qui tient le violoneux du village, Jean-Baptiste Jetin, pour un pêcheur public et refuse de le marier à l'église. Contre celui de Sam, assez vaniteux pour habiller son sacristain en Suisse cathédrale. Contre celui d'Esco, qui a coupé de la fougère dans la propriété d'un de ses paroissiens. Contre celui d'Ondre encore, qui a publiquement donné une épingle à l'une de ses paroissiennes afin qu'elle serre son corsage. Cachez ce sein que je ne saurais voir. Contre ceux de la vallée d'Aspe, qui mettent peu d'empressement à célébrer des messes pour les victimes de la Révolution de Juillet. Contre celui de Saint-Jean-Pied-de-Port, qui menace d'exclure de la première communion les enfants dont les pères votent Perrier au lieu de voter pour le candidat bien-pensant Darieux, etc., etc. Nous pourrions multiplier indéfiniment les exemples. On le voit, la cueillette qu'effectue Chao est abondante, mais avouons-le, elle est de médiocre qualité. Ce sont là des griefs assez futiles, des péchés véniels. La prose de l'Ariel nous donne en réalité une haute idée de l'intégrité morale du clergé basque, béarnais ou landais de ce temps. Heureusement pour Chao, la presse des provinces et les dépêches de l'étranger viennent à son secours et lui fournissent abondamment des prêtres assassins de leurs maîtresses et de leurs enfants, ou escrocs, ou pédophiles, ou incendiaires. Au début de 1848, un procès passionne Chao et toute l'opinion française. L'Ariel Courrier de Vasconie lui consacre toutes ses colonnes. C'est celui d'un frère des écoles chrétiennes de Toulouse, Jean-Louis Bonafous, en religion frère Léotade, accusé du meurtre de Cécile Combette, une jeune fille dont le cadavre avait été trouvé dans le cimetière attenant à une maison des frères. Le crime avait eu lieu le 15 avril 1847. L'instruction et le procès furent conduits avec une partialité incroyable. Il fallait un coupable et parmi les religieux. Sans aucune preuve, sans le moindre aveu, pour de vagues contradictions relevées sur des points parfaitement secondaires au cours d'interrogatoires interminables et épuisants, le malheureux Léotade fut envoyé devant la cour d'assises et condamné au bagne à perpétuité. On lui accorda généreusement une circonstance atténuante, la continence à laquelle ses vœux l'obligeaient l'avaient mis hors d'état de résister à ses pulsions. De ce procès, l'Ariel, devenu républicain de Vasconie, rend compte avec une partialité semblable à celle des hommes dits de loi qui conduisirent l'instruction et le procès. 20 numéros ne parlent que de l'affaire. Mais alors qu'aucun témoignage à charge ne fait défaut, que chacun est rapporté en détail et commenté, les témoignages favorables à l'accusé sont à peine mentionnés avec dédain, et tandis que les plaidoiries du procureur général et de la partie civile sont rapportées in extenso, celles de la défense sont totalement absentes des colonnes d'Ariel. Voyez, entendez, par exemple, la péroraison de l'avocat de la partie civile, M. Rumeau. En résumé, l'école des frères est dirigée par les jésuites. C'est l'école de l'ignorance, de l'hypocrisie, du mensonge et parfois du crime. Regardez cet homme, examinez cette organisation physique, ce tempérament robuste, ce besoin d'expansion qui semble jaillir de tous côtés. Regardez l'air de cet homme qui, sous une modestie apprise, déguise mal la luxure qui l'anime. N'est-il pas vrai, messieurs, ne vous semble-t-il pas, que cette nature doit nécessairement se révolter contre la règle, que, dans tel cas donné, l'essence en puisse se réveiller? Là, dans ce vestibule, à ses yeux, paraît une enfant, une vierge, un ange. Tout à coup, il se fait chez cet homme comme une révolution subite. Un fluide électrique vient enflammer son corps. Son œil brille. Il veut posséder Cécile. Il la possédera. Je vous adjure, au nom de la religion que vous avez invoquée tant de fois à cette audience, je vous adjure, au nom de cette innocente victime pour laquelle se sont ouvertes les portes du ciel, ah, Léotade, dites, parlez, avouez. Il se tait, messieurs. Il se tait. Il est coupable. Que la justice humaine s'appesantisse sur sa tête. Le frère Léotade mourut au bagne de Toulon, 2 ans à peine après son procès, après avoir protesté solennellement de son innocence une dernière fois devant le commissaire de la République près les tribunaux maritimes qu'il avait, à cet effet, appelé à son chevet. Tout cela est assez affligeant et ne nous donne pas une très haute idée de la qualité d'âme d'Augustin Chao ni de ses amis. Il nous faut pourtant encore parler de la campagne qu'il entretint pendant 3 ans, à partir de juillet 1846, contre l'abbé Louis-Édouard Sestac, grande figure, s'il en est, du clergé bayonnais, fondateur du refuge, des servantes de Marie, des Bernardines. C'était la bête noire de Chao, le père Zigzag, ou le père Tic-Tac, comme il aimait assez puérilement à l'appeler. Chao n'accusa jamais ses mœurs, si même telle ou telle fois, très rarement, il risque à ce sujet quelques plaisanteries trop bouffonnes pour que lui-même ni personne puisse la prendre au sérieux. Il reproche à l'abbé de faire vivre les filles sorties du trottoir dans des conditions excessivement dures, inhumaines, et d'exploiter leur travail pour accroître les ressources de son œuvre. Là-dessus, la verve de Chao, son talent qui consiste à dire une infinité de fois la même chose sous des formes diverses, se donne libre cours. Protestation directe, chronique bayonnaise ou angloïe, lettres qu'il imagine avoir reçues, poèmes élégiaques qu'il attribue aux pensionnaires du refuge, Chao varie les genres pour réclamer indéfiniment l'intervention des pouvoirs publics en vue de la réforme ou de la fermeture du couvent Sestac. Cela commence le 16 juillet sous le titre « La belle fugitive ». Sous ce titre attrayant, on pouvait lire « Nous recevons d'Anglet la lettre suivante que nous reproduisons sans réflexion ni commentaire. Monsieur le rédacteur, j'ai 20 ans. Je vécus libre, dit-on, pendant quelques jours de ma folle adolescence. Aujourd'hui, je puis me vanter d'être plus esclave qu'une négresse. Depuis que Sestac est devenu mon père spirituel, blanchisseur particulier de ma conscience et blanchisseur général de Bayonne, filateur, cultivateur, maquignon, etc., etc. » Et cela continue avec des variations infinies sur le même thème pendant des centaines de colonnes. Par exemple, dans cette chronique départementale, l'abbé Sestac, entrepreneur général de lessive et blanchissage, grand paillassier de la garnison de Bayonne, fabricant et expéditeur à l'étranger de fleurs artificielles, lingère, couturière, repasseuse en grand, maquignon, agriculteur, marchand de lapins, de légumes, de volailles, de cochons, fabricant de statuettes et de magots plus chinois que religieux, convertisseur de filles de joie, prédicateur, confesseur, martyr de l'Ariel, tenant bureau de placement pour domestiques et autres espions des familles, etc., 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 offre en dépôt un certain nombre de bouteilles pour les maladies des yeux. Chaque flacon, composé d'eau de plantain ou de rivière et de sulfate de zinc, valant intrinsèquement 25 centimes, verre compris, se vend pour la bagatelle de 3 francs. L'abbé ne demande qu'à prélever 50% au profit des pauvres. Un peu plus tard, comme il avait reçu les lettres d'Olympia, dont nous citions les premières lignes, il reçut l'estance plaintive d'Emilia, qui venait d'Anglette, elles aussi. « Songe à moi », écrivait Emilia à Ariel. « Songe à moi, car je suis comme la tourterelle qu'étouffe le vautour dans sa serre cruelle. Je suis comme un captif enfermé dans sa tour. Je suis comme la fleur de la plaine voisine qui périt sans rosée et dont le front s'incline, desséché par les feux du jour. Mais l'oiseau peut du moins faire entendre sa plainte. Le captif dans sa tour peut pleurer sans contrainte. La fleur, tout en tombant, peut se plaindre aux zéphyrs. Et moi, lorsque mon cœur devient gros de tristesse, moi, lorsque la douleur m'oppresse, je dois me cacher et gémir. » Comme on voit, Emilia avait un assez joli talent. Des amis de l'abbé Sestac, en particulier le maire d'Anglette d'Otézac et le commissaire Paccard, lui conseillaient de porter plainte. Mais l'abbé préféra s'enfermer dans le silence et éviter les risques et d'une polémique et d'un procès. Chaos ne se lassa d'attaquer l'abbé qu'à partir du moment où il joua, lui-même, un rôle politique. Le clergé connaissait en 1848 un regain de popularité. Progressivement et jusqu'à sa mort, l'anticléricalisme de Chaos eut tendance à s'atténuer. Léonard rapporte que dans les derniers temps de sa vie, il s'attendrissait jusqu'aux larmes en lisant dans l'Émile du bon Jean-Jacques la profession de foi du vicaire savoyard. Dans l'intervalle, il avait connu son heure de gloire. Au début de la Deuxième République, conseiller municipal de Bayonne, commandant du 1er bataillon de la Garde nationale, conseiller général du canton de Tardets, un des chefs de file du Parti radical, quand le leader national en était Ledru Rollin, c'était un personnage. Le déclin vint très vite. En 1847, un accident de voiture lui coûta un siège de député à la législative. C'était à la veille des élections et on le crut mort. Après le coup d'État, il fut exilé à Vitoria. Il revint à Bayonne, se réconcilia avec son père. Il avait dû renoncer à la politique. Sa santé était lourdement compromise. Il mourut à 47 ans, en 1858, après avoir refusé, malgré les pressions, de recevoir les secours de la religion, comme l'amenée dont nous parlions l'autre fois. Il est enterré au cimetière de Bayonne, sans croix sur sa tombe, avec son buste, une barbe et une moustache à la Napoléon III, et une grille de fer sur laquelle on voit des figures ailées qui sont des Ariel. Voilà, en gros trait, quelles ont été à Bayonne la pensée et l'action du voltairien Augustin Chaos. Reste un mystère. Comment, pourquoi, pour quel motif, pour quel mobile, poussé par quel sentiment, cet homme de chez nous, ce sultan de Tardets, a-t-il suivi un chemin aussi singulier, tourné le dos à nos traditions religieuses, ignoré totalement et évidemment de parti pris l'évangile, la personne de Jésus-Christ? Je ne peux pas croire que ce soit en fonction d'une logique, d'un cheminement rationnel. Il y a trop de pauses, trop de prétentions arbitraires, trop d'exagérations dans ce qu'il écrit. Et puis cette hargne, ce caractère à la fois charmant et ombrageux, pathologiquement susceptible, cette sensibilité d'écorché vif, c'était un esprit aigu, dit Lambert, qu'il a connu. Il voyait des ennemis partout. Il était d'un orgueil intraitable, difficile à vivre. Il ne réglait pas son imagination sur les réalités. Il avait une rare puissance d'insulteur. Il était d'un tempérament irritable, d'une vivacité inouïe de sensations. Qu'est-ce qu'il avait à ce point blessé, meurtri, qu'il eut un tel besoin de s'affirmer, une telle soif de revanche contre un sentiment d'infériorité, d'une tare qu'il habitait? D'où vient aussi qu'il ait vécu sans femme, sans épouse, et pour autant qu'on sache sans maîtresse, ni amour de passade, jeté, noyé dans son travail et répétant à satiété ses thèses, dont certaines sont si difficiles à soutenir? Il avait parfois, dit encore Lambert, l'inquiétude et l'exaltation fébrile d'une femme. Il y a un mystère, Shaw, qui intrigue, qui fascine même, comme passionnerait au fond n'importe quelle vie d'hommes ou de femmes. L'intérêt de se pencher sur une vie d'écrivain, c'est que lui écrit, et du même coup se raconte, mais se cache aussi. Shaw a beaucoup écrit et s'est beaucoup caché. C'est sans doute ceci et cela qui le rendent si attachant.
Histoire de l'Église, une émission proposée par le Père Sabalo. C'est une rediffusion des 22 émissions réalisées par le Père Joseph Sabalo dans les années 1990 pour Radio La Pourdie. La semaine prochaine, 18e épisode des Saints de chez nous, le Père Clément d'Asquin, le Père Fidèle de Béla et le Père Jean-Baptiste Garat d'Asparin.